Chapitre 2 Le récit du docteur. Au chef de bureau du sous-district dans lequel a eu lieu le décès ci-dessous mentionné, je sous-signé certifie que j'ai donné mes soins à Lady Glyde, âgée de 21 ans, que j'ai vue pour la dernière fois le jeudi 25 juillet 1850. Qu'elle est morte le même jour au numéro 5 Forest Road, St. John's Wood, et que la cause de sa mort a été un anévrisme. La durée de la maladie ne m'est pas connue. Signature, Alfred Goodrick. Titre professionnel, MRCS Ing LSA. Adresse, 12 Croydon Gardens, St. John's Wood. Chapitre 3. Récit de Jane Gould. Je suis la personne que M. Goodrick envoya pour donner les soins nécessaires au reste d'une lady, décédé dans la maison désignée par le certificat qui précède celui-ci. Je trouvais le corps sous la garde de la domestique Hester Pinhorn. Je veillais sur lui et le préparais en temps convenable pour l'ensevelissement. Il fut devant moi couché dans la bière, laquelle je regardai ensuite fermée à vis avant qu'elle fût enlevée. Lorsque ceci eut été fait, et non plus tôt, je reçus mes honoraires et je quittai la maison. Je renvoie à M. Goodrick les personnes qui souhaiteraient avoir des renseignements sur le degré de confiance que je mérite. Il estime qu'on peut s'en rapporter à moi pour ne dire que la vérité. Signature Jane Gould. Chapitre 4 Relation de la pierre funéraire. Consacrée à la mémoire de Laura, Lady Glyde, femme de Sir Percival Glyde, baronnet de Blackwater Park, Hampshire. Et fille de feu Philip Fairley, Esquire, de Limeridge House, en cette paroisse. Née le 27 mars 1829, mariée le 22 décembre 1849, morte le 25 juillet 1850. Chapitre 5 Récit de Walter Hartwright. Au commencement de l'été 1850, moi et ceux de mes compagnons qui survivaient encore, nous quittâmes, pour revenir au pays, les déserts et les forêts de l'Amérique centrale. Arrivés sur la côte, nous prîmes passage pour l'Angleterre. Notre navire fit naufrage dans le golfe du Mexique. Je fus du petit nombre de ceux qu'épargna la mer. C'était la troisième fois que j'échappais à un danger de mort. La mort par maladie, la mort de la main des Indiens, la mort au sein des flots, je les avais vus de très près toutes les trois. À toutes les trois, j'avais été soustrait. Les naufragés survivants furent secourus par un navire américain, voguant à destination de Liverpool. Ce navire arriva au port le 13 octobre 1850. Nous débarquâmes assez tard dans l'après-midi, et j'arrivai à Londres le même soir. Ces pages ne sont pas destinées à rappeler mes courses errantes ou les dangers que j'ai pu courir loin de mon pays. Les motifs qui m'avaient entraîné loin de lui et de mes amis sont déjà connus. De cet exil volontaire, je reviens, ainsi que je l'avais demandé au ciel, ainsi que je l'avais espéré, ainsi que j'y avais compté, un homme nouveau. Je m'étais retrempé dans les eaux d'une autre existence. À la rude école du danger et des crises sans cesse renaissantes, ma volonté s'était fortifiée, mon cœur s'était affermi. Mon intelligence s'était formée à compter sur elle-même. J'étais parti pour me dérober aux menaces de mon avenir. Je revenais pour y faire face, ainsi que le doit un homme de cœur. Pour y faire face avec cet inévitable sacrifice de tout égoïsme, qui, je le savais d'avance, allait être exigé de moi. En effet, j'étais bien quitte des pires amertumes du passé, mais non des souvenirs mélancoliques et de l'attendrissement de cœur que m'avait légué cette époque si mémorable pour moi. Je n'avais pas cessé de ressentir, comme un coup irréparable, ce grand désappointement de mon existence. J'avais seulement appris à le supporter. Au moment où le navire m'emportait au loin, et où mon dernier regard tombait sur la côte anglaise, Laura Fairley occupait toutes mes pensées. Laura Fairley occupait toutes mes pensées au moment où un autre navire me ramenait et lorsque les clartés du matin me montrèrent le rivage natal. De même que mon cœur retourne aux amours passés, ma plume retrace le nom qui n'est plus. Je l'appelle encore Laura Fairley. En pensant à elle, en parlant d'elle, Il m'est pénible de lui donner le nom de son mari. Il n'est pas besoin d'un surcroît d'explication pour justifier ma réapparition dans ces pages. Ce récit continuera donc, si j'ai la force et le courage d'y donner suite. Mes premières inquiétudes et mes premières espérances, quand revint le jour, se concentrèrent sur ma mère et ma sœur. Je comprenais la nécessité de les préparer à la joie, à la surprise de mon retour, après une absence durant laquelle, pendant plusieurs mois, elles n'avaient pu recevoir aucune nouvelle de ce que j'étais devenu. Je dépêchai de bonne heure une lettre au cottage de Hampstead et la suivis moi-même une heure après. Lorsque les premières effusions eurent eu leur cours, lorsque par degrés se rétablit entre nous le calme et le sang-froid du temps passé, je vis sur le visage de ma mère quelque chose qui m'avertit qu'une secrète oppression pesait sur son cœur. Il y avait autre chose que de la tendresse. Il y avait de la douleur dans ses yeux inquiets qui ne me perdaient pas de vue. Il y avait de la pitié dans cette affectueuse étreinte de sa main qui, lentement et cordialement, emprisonnait la mienne. Nous n'avions pas de secret l'un pour l'autre. Elle savait comment les espérances de ma vie avaient fait naufrage. Elle savait pourquoi je l'avais quittée. Une question errait sur mes lèvres, à laquelle je voulais donner l'accent le plus calme. J'allais lui demander si quelques lettres de Miss Halcombe étaient arrivées pour moi, si on avait, de sa sœur, des nouvelles qui pussent m'être communiquées. Mais quand je regardais ma mère au visage, je n'osais plus, même avec ses précautions, la questionner ainsi. À peine pus-je lui dire, déjà inquiet, avec un effort visible, « Vous avez quelque chose à m'apprendre ?» Ma sœur, qui était assise en face de nous, se leva tout à coup, sans un mot d'explication. Elle se leva et quitta la chambre. Ma mère se rapprocha de moi sur le sofa et de ses bras m'entoura le cou. Il tremblait, ses bras chéris. D'abondantes larmes coulaient sur ce visage où était peinte une affection si fidèle. « Walter, murmura-t-elle, mon Walter bien-aimé, mon cœur saigne pour vous. Mon fils, mon bon fils, faites un effort pour vous-même. Rappelez-vous que je vous reste encore. » Je laissai aller ma tête sur sa poitrine. En prononçant ces paroles, elle m'avait tout appris. C'était le matin de la troisième journée qui suivit mon retour. Le matin du 16 octobre, j'étais resté avec elle au cottage. J'avais beaucoup pris sur moi pour leur dissimuler cette amertume qui avait empoisonné la joie que j'éprouvais de me retrouver auprès d'elle. J'avais fait tout ce que peut un homme pour se relever, après un choc violent pour me résigner à vivre. Pour empêcher mon immense douleur de devenir un désespoir sombre et la transformer en une tristesse attendrie. Travail sans résultat. Aucune larme n'apportait leur baume à mes yeux brûlants. Je ne trouvais aucun secours ni dans la sympathie de ma sœur, ni dans la tendresse dévouée de ma mère. Ce jour-là, je leur ouvris mon cœur. Je laissai enfin échapper de mes lèvres les paroles que j'aspirais à prononcer depuis le jour où ma mère m'avait appris que Laura n'était plus. « Laissez-moi m'éloigner, seul, leur dis-je, et pour quelques jours. Je porterai mieux ce fardeau quand j'aurai jeté les yeux une fois encore sur l'endroit même où je la vis pour la première fois. Quand je me serai agenouillé, quand j'aurai prié sur la tombe où ils l'ont placée pour qu'elle y repose en paix. » Ainsi commença mon voyage au tombeau de Laura Fairley. Ce fut par une tranquille après-midi d'automne que je fis halte à la station déserte et que je partis de là, seul à pied, par ce chemin si présent à ma mémoire. Le soleil, prêt à disparaître, perçait de ses rayons affaiblis un mince rideau de nuages blancs. L'atmosphère était tiède et calme. Sur cette contrée solitaire et paisible, planait comme une ombre triste l'influence de l'année à son déclin. J'arrivais au marais, je gravis de nouveau la colline, j'embrassai du regard le long sentier, et mes yeux retrouvèrent dans l'éloignement les bocages familiers du jardin, l'hémicycle sablé où les voitures venaient s'arrêter, les hautes murailles blanches de Limeridge House. Les chances diverses de ce périlleux pèlerinage, qui venait d'occuper ma vie depuis plusieurs mois, s'effacèrent toutes de mon esprit, tombant en poussière et réduites à rien, par l'effet magique de ce spectacle. Il me semblait que hier à peine, mes pieds avaient foulé pour la dernière fois ce sol revêtu de bruyères odorantes. Il me semblait que j'allais la voir venir à ma rencontre, sa figure ombragée par un petit chapeau de paille, son modeste vêtement frémissant au souffle de la brise, et dans ses mains cet album aux pages si bien remplies. Tombeau, tu as ta victoire. Mort, tu as ton aiguillon. Je me détournai. Au-dessous de moi, là le petit vallon, l'église au mur gris, entourée de solitude, le porche sous lequel j'avais attendu l'arrivée de la femme en blanc, les collines formant enceinte au champ de repos, le ruisseau froid murmurant sur son lit de cailloux. À la tête du tombeau se dressait, élégante et blanche, la croix de marbre, et, sous ce tombeau, mère et fille dormaient ensemble. Je m'en approchai. Une fois encore, je franchis la barrière de pierre, à peine élevée au-dessus du sol, et j'entrai tête nue dans ce lieu sacré. Le respect et la douleur venaient y rendre un dernier hommage à la douceur et à la bonté. Je m'arrêtai devant le piédestal d'où s'élevait la croix. Sur une des faces, la plus rapprochée de moi, l'inscription récemment taillée arrêta mes yeux. Ces lettres noires, impitoyables, d'une netteté cruelle qui racontaient l'histoire de sa vie et de sa mort, je tentai de les lire. Je les lus, en effet, jusqu'au nom, consacré à la mémoire d'eux. Oh, ces yeux bleus si tendres, voilés de larmes, cette blonde tête languissamment penchée, ces innocents adieux qui me conjuraient de la quitter, j'eusse voulu d'elle un dernier souvenir moins triste que celui-ci. Mais c'était celui que j'avais emporté avec moi jusqu'au pied de sa tombe. Une seconde fois, j'essayai de lire l'inscription. Je vis au bas la date de sa mort, et au-dessus, il y avait, parmi les lignes inscrites sur le marbre, un nom qui gênait mes pensées et les détournait d'elle. Je passai de l'autre côté du tombeau, où il n'y avait rien à lire. Nulle ignominie terrestre ne vint se placer de force entre son esprit et le mien. Je m'agenouillai près du tombeau. J'étendis mes mains, je posai ma tête sur la large pierre blanche, et je fermai mes yeux fatigués pour ne voir ni la terre qui l'entourait, ni la lumière qui l'éclairait d'en haut. Je laissai ainsi revenir à moi l'ombre chérie, vous que j'aimais, mon cœur peut maintenant vous parler. C'est hier seulement que nous nous sommes quittés. Hier seulement que votre main frémissante était dans la mienne. Hier seulement que mes yeux vous jetaient leur dernier regard. Mon amour, mon seul amour. Le temps avait suivi son cours, et le silence s'était étendu comme une épaisse nuit sur ce rapide courant. Après ces minutes de calme céleste, le premier bruit qui s'éleva fut celui d'un léger souffle d'air circulant parmi les hautes herbes du cimetière. Je l'entendais se rapprocher de moi, lentement, lorsque mon oreille le perçut autre qu'il n'était d'abord. On eût dit un bruit de pas qui avançait. Puis ils s'arrêtèrent. Je levai les yeux. Le soleil allait disparaître. Les nuages s'étaient dissous. La lumière oblique glissait, douce et dorée, au flanc des collines. La fin du jour se faisait, fraîche, transparente et calme, dans le tranquille vallon des morts. Devant moi, dans le cimetière, debout, l'une à côté de l'autre, et se dessinant sur la froide lueur du ciel, je vis deux femmes. Elles regardaient du côté de la tombe, elles regardaient de mon côté. Deux femmes. Elles firent quelques pas en avant et s'arrêtèrent encore. Leurs voiles étaient baissés et me cachaient leur visage. Quand elles firent halte, l'une d'elles leva son voile. À la calme lumière du soir, je reconnus la figure de Marion Halcombe. Elle était chargée comme vieillie de plusieurs années. Ses grands yeux hagards exprimaient, en me regardant, une terreur étrange. Ce visage usé, fatigué, faisait pitié. La souffrance, la crainte, le chagrin y étaient inscrits, comme avec un fer brûlant. Quittant le tombeau, je fis un pas vers elle. Elle ne bougea pas. Elle ne prononça pas une parole. Sa compagne, voilée, poussa un faible cri. Je m'arrêtai court. Les sources de la vie semblèrent tarir en moi. Et le frisson d'une indicible crainte passa sur moi de la tête aux pieds. La femme voilée se sépara de sa compagne et vint vers moi, lentement. Laissée à elle-même, immobile et seule, Marion Halcombe parla. C'était bien la voix que je lui avais connue. Sa voix n'avait pas changé comme son visage terrifié, comme son visage flétri. Mon rêve, je l'entendis prononcer ces mots d'une voix très basse, dans le silence qui nous enveloppait. Elle tomba sur ses genoux, et, levant vers le ciel ses mains jointes, « Père, disait-elle, donnez-lui la force. Père, à l'heure de la tentation, venez-lui en aide. » L'autre femme avançait, lentement et en silence. Elle avançait. Je la regardais seule à partir de ce moment. La voix qui priait pour moi faiblit par degrés et sembla s'éteindre. Puis, s'élevant tout à coup, avec l'accent de la terreur, avec l'accent du désespoir, elle me conjura de m'éloigner. Mais la femme voilée avait pris possession de moi, corps et âme. Elle s'arrêta de l'autre côté du tombeau. Nous étions face à face, la pierre funéraire entre nous. Elle était du côté du piédestal où l'inscription avait été gravée. Sa robe touchait aux lettres noires. La voix, cependant, se rapprochait et s'élevait toujours, de plus en plus passionnée. « Cachez votre visage, disait-elle. Et vous, vous, ne la regardez pas. Oh, pour l'amour de Dieu, épargnez-le. » La femme leva son voile. Consacré à la mémoire de Laura, Lady Glyde. Laura, Lady Glyde, debout à côté de l'inscription funèbre, me regardait par-dessus la tombe. La seconde époque du récit finit ici.